Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel au micro Yves Bastide pour l'émission Par ici, les sorties. Le vendredi 12 janvier et le samedi 13 janvier à 20h30, au théâtre de poche des Abbayes Saint-Brice, vont se dérouler deux représentations d'une pièce récente, Les Monstrueuses de Leïla Anis. Pour ceux qui peut-être ont eu l'occasion de l'entendre, elle en a fait une lecture il y a fin 2016. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Leïla Anis. Bonjour Leïla.
Bonjour.
Alors, Les Monstrueuses, d'abord, je dois dire que ce titre m'a un peu, comme on dit maintenant, interpellé quelque part. Je trouve que c'est un titre assez percutant. Alors, pouvez-vous nous dire rapidement pourquoi vous avez appelé votre pièce Les Monstrueuses?
Oui, alors le titre Les Monstrueuses, donc c'est un titre que l'on a discuté ensemble avec Karim Amiche, donc qui est directeur et metteur en scène de la compagnie de l'Œil Brun, dans le cadre de laquelle ce projet est né. Les Monstrueuses, pour un double sens. Le premier sens, parce que ces femmes-là, ont toutes un rapport à la culpabilité et une sensation de ne pas être dans le cadre qui est imposé selon les époques dans lesquelles elles vivent. Et ces femmes-là donc se sentent monstrueuses. Et puis l'autre sens qui est que la société qui les entoure, selon les époques, les ont jugées monstrueuses. Voilà.
D'accord, merci. Les Monstrueuses, donc, une pièce de Leïla Anis. Le point de départ est assez curieux quand même. C'est une jeune femme qui, brusquement, est frappée d'amnésie, qui, lorsqu'elle se réveille, elle se réveille non plus à notre époque, mais en 1929. C'est-à-dire, en clair, à un moment où on n'est pas encore né, officiellement. Alors, expliquez-nous un peu ce décalage dans le temps.
Alors, effectivement, il s'agit d'une histoire qui met en scène un personnage qui vit aujourd'hui, donc une jeune femme d'aujourd'hui, qui va voyager dans le temps. Elle rejoint d'une certaine manière le tout début de cette filiation féminine. Elle va retrouver l'histoire de son arrière-grand-mère qui est née à la fin du 19e siècle et qui vit dans la France du début du 20e siècle. Nous sommes en 1929 et puis en 1919 au début de cette histoire. Et puis dans la scène suivante, on retrouve le présent. On retrouve le présent, l'histoire de cette jeune fille. C'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle est enceinte et qui est frappée très fort par cette nouvelle et qui vit un choc post-traumatique. Et dans le cadre de ce choc post-traumatique, a une amnésie de courte durée qui dure quelques jours. Donc elle a vraisemblablement effectivement un trouble au niveau neurologique. Elle va être accompagnée ensuite par un passeur, un médecin qui va être un personnage qui va la guider dans la reconstitution de cette filiation féminine.
Alors ce qui est étonnant dans votre pièce, c'est que c'est au départ, le point de départ, le prétexte de départ, c'est une amnésie. Et grâce ou à cause de cette amnésie, elle va retrouver non pas son propre passé, mais le passé des femmes qui l'ont précédée, puisque je crois, si je me souviens bien, il y a 4 générations, 5 générations de femmes. Donc elle va retrouver, en perdant sa propre mémoire, en perdant son propre passé, elle va trouver ou retrouver le passé des femmes qui l'ont précédée dans sa famille, c'est ça?
Effectivement, elle perd le passé immédiat, l'enfance et l'adolescence, et puis les débuts de l'âge adulte, pour retrouver effectivement l'histoire de la parentalité, en fait. Hein, c'est de ça dont il est question, effectivement, du début du XXe siècle jusqu'à elle.
Oui, parce que... Alors... vous êtes né à Djibouti, vous êtes arrivé assez tôt en France, vous avez vécu longtemps dans le sud, on va dire Toulouse, Marseille, maintenant ce n'est plus le cas, mais c'est quand même rattaché à toute une filiation féminine du sud.
Alors, dans l'histoire, la première arrière-grand-mère est parisienne, elle, et effectivement est mariée dans le cadre d'un mariage arrangé dans la petite bourgeoisie de Castres. Elle est mariée à un commerçant à Castres. Et puis très vite, elle rejoint Paris après. Et puis sa fille rejoindra Paris. Il y a un enracinement pour certaines dans le sud de la France et puis pour d'autres à Paris.
Oui, mais c'est quand même un univers qui n'est pas forcément familier pour le spectateur habituel du théâtre.
En ce qui concerne l'écriture,
oui. Oui. C'est un univers qui peut nous paraître étrange, pas étranger, mais étrange, étonnant.
Oui, alors il y a dans la forme de l'écriture quelque chose qui se fait beaucoup hein, à l'heure actuelle, qui est le principe de dramaturgie déconstruite. C'est-à-dire que la première scène n'est pas une scène d'exposition dans laquelle on va voilà rencontrer les personnages, etc. La première scène, la première prise de contact avec cette histoire, elle se fait à travers un prologue. Effectivement, ce prologue, il fait appel à une légende qui prend racine au Yémen, qui est une légende qui rejoint celle des sorcières en Occident, un petit peu comme dans la tragédie, quand on s'attachait à commencer une histoire par un prologue, comme une parole prophétique qui dit ce qui va arriver. Voilà, on voit ça dans les pièces de Shakespeare, on voit ça dans les pièces de Sophocle. Il y a quelque chose comme ça qui, le théâtre contemporain, quelque part, n'invente rien à cet endroit-là. On est dans une forme qui peut rappeler voilà, les formes plus classiques. Et puis, effectivement, après, il y a un voyage dans le temps, dans une écriture qui peut se rapprocher du cinéma. On découvre une jeune femme d'aujourd'hui et puis tout d'un coup, dans la scène suivante, on plonge après d'un siècle avant le temps présent, et puis on revient au temps présent, et puis on repart dans le passé. C'est un type d'écriture, des choix formels d'écriture qui sont de plus en plus utilisés actuellement, et effectivement qui sont très proches de formes cinématographiques.
Alors, par contre, je voudrais préciser une chose qui me semble importante. Ça paraît un peu compliqué quand on le dit comme ça. En réalité, quand on vous écoute, quand on vous voit, on ne se pose pas la question, on suit très bien l'histoire. Donc finalement, de savoir si ça se passe en 1929 ou en 2008, ou je ne sais plus quelles sont les dates exactes, ça n'a pas tellement d'importance. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, vous interprétez quatre femmes différentes qui n'ont pas le même âge, et en même temps, c'est toujours vous. C'est-à-dire que l'image, enfin, ou disons le personnage de la femme, est un peu toujours le même, dans un contexte différent, dans une histoire différente, dans un milieu parfois différent, mais c'est toujours la même femme qui raconte.
Oui, effectivement... la question s'est posée pour Karim Amiche sur la mise en scène de ce texte, à savoir si plusieurs comédiennes interprétaient les différents rôles de femmes ou s'il n'y avait qu'une seule comédienne. Et pour différentes raisons, le fait d'être une interprète pour cette filiation-là, ces générations-là, c'était une façon de travailler sur les traces laissées par chacune de ces générations en une même héritière finalement.
Oui. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on regarde un peu la généalogie, et beaucoup de gens s'intéressent à leur propre généalogie, il y a d'une génération à l'autre une constante, et c'est cette constante-là que vous restituez pour vous-même peut-être, mais surtout pour le public, parce que encore une fois, on s'y retrouve très bien. Alors, ouais. Il y a aussi une chose qui m'a beaucoup intéressé quand je vous ai écouté, c'est en fait, on se sent proche de vous et on a l'impression que vous écrivez comme une nécessité. C'est-à-dire que les mots pour vous sont une façon de respirer presque. Ça, parce que ce que vous dites, ça vient de... Ce n'est pas uniquement des mots qu'on met sur le papier. Ça, on sent que ça vient du plus profond. Je me trompe?
Ce qui est sûr, c'est que sur le type de texte que l'on souhaite monter, donc au sein de la compagnie de l'Œil Brun, il y a effectivement un ancrage dans le réel qui nous tient à cœur, vraiment. Ancrer une écriture dans le réel, ça représente aussi pour nous un travail qui va être très physique, très organique, quelque chose qui permet aux spectateurs d'être au plus proche du personnage, en fait, de ce qui lui est raconté. Et les biais par lesquels moi je tiens à passer, donc dans l'écriture, ce sont effectivement les cinq sens. J'écris beaucoup avec la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Et j'aime aussi beaucoup m'attacher à des instants précis de chaque vécu. Voilà. Et voir comment sont traversés ces vécus-là par différents paramètres, voilà, de ce qui se vit autour d'eux, en eux, etc. Il y a quelque chose qui, effectivement, est de l'ordre du récit intérieur dans l'écriture tout au long de l'histoire, effectivement.
Ça vient du cœur, et si j'osais ce mot un peu trivial, ça vient surtout des tripes. Si vous voulez bien, nous allons prendre une première pause musicale. Après cette première pause, je vous rappelle que le vendredi 12 janvier, le samedi 13 janvier à 20h30, au Théâtre de Poche aux Abbayes Saint-Brice, auront lieu deux représentations des Monstrueuses de Leïla Anis. Le prix des places, 10 euros et 15 euros. Le numéro de téléphone, si vous souhaitez retenir vos places, 02 37 33 02 10, je répète, 02 37 33 02 10. À présent, je rejoins Leïla Anis qui, dans le cadre des activités de la Compagnie de l'Œil Brun et dans une mise en scène de Karim Amiche, a écrit la pièce et l'interprète. En fait, elle interprète dans la réalité plusieurs rôles de femmes qui sont en fait la même femme, puisqu'il s'agit de filiation de mère à fille, ou plutôt de d'arrière-grand-mère à grand-mère, à mère et à fille. Mm-hmm. Je ne me suis pas trompé.
Oui, exactement.
Je n'ai pas sauté de génération. Mm-hmm. Alors, en dehors du prologue dont vous avez parlé tout à l'heure, de votre pièce, il y a le début. Il y a des pages que j'ai trouvées personnellement très prenantes, peut-être parce que je me sens un homme. C'est lorsque elle va faire une analyse médicale. Elle découvre qu'elle est enceinte. Et c'est à ce moment-là que se déclenche cette amnésie. Enfin, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe. Mais c'est une très belle page, cette page où elle découvre qu'elle est enceinte. Alors, expliquez-nous un peu comment ça vous est venu, l'idée de démarrer là-dessus.
Quand la question de la dramaturgie s'est posée, je savais que il était très important de faire exister les différentes générations. Seulement, faire exister ces générations-là sans avoir un moteur d'écriture fort et surtout actuel, c'était compliqué. Cette jeune fille-là, Ella, qui vit en 2008, qui a 30 ans, elle me paraissait très importante parce que une possibilité d'identification pour le public d'aujourd'hui, pour les jeunes aussi d'aujourd'hui, c'était très important de parler à notre époque et de parler au temps présent avant tout, parce que le passé seul, sans prendre son sens au présent, me semblait un peu vain. Et comme moteur très fort chez elle, il y avait cette grossesse, la nouvelle de cette grossesse qui permettait d'orienter tout de suite l'histoire, le récit qu'on allait entendre sur la question de la parentalité.
Et de la transmission.
Et de la transmission, effectivement.
Parce qu'on sait qu'elle est enceinte. On peut supposer que selon la tradition familiale, elle aura une fille, mais on n'en sait rien. Enfin, donc, c'est en même temps très, très intéressant parce que quand elle remonte à sa mère, à sa grand-mère, à son arrière-grand-mère, on voit ressurgir ce problème qui est toujours d'une actualité brûlante. Ce problème de la grossesse, parce que ses ancêtres, ces femmes qui l'ont précédée, ont chacune vécu des épisodes douloureux avec cette grossesse. Alors, je vous laisse la parole.
Oui, effectivement, ce sont des grossesses qui ne sont jamais allées de soi, comme devenir parent ne va pas de soi, tel que les sociologues en parlent très bien aujourd'hui. Effectivement, il y a une construction sociale autour de cette histoire de la parentalité qui est là et qui, selon les époques, laisse une marge de manœuvre, une liberté autour de cette question-là différente. Voilà. On a des portraits qui sont d'un côté et de l'autre de la Méditerranée dans cette histoire, hein, puisque le but aussi était de parler effectivement d'un personnage au Yémen et des trois autres en Occident, donc en France plus exactement, avec les similitudes vécues sur la question des inégalités hommes-femmes, des différents interdits et puis des stéréotypes en fait dans lesquels les femmes à travers les époques ont été tenues de rester. Et les monstrueux, c'est effectivement toute cette histoire de comment est-ce que quand on est une femme en 1919 en France, ou une femme au Yémen en 38, ou encore une femme en France à la fin de la Deuxième Guerre dans les années 50, comment est-ce que on vit avec le fait de devenir mère, devenir père, hein, puisque les pères ne sont pas exclus de cette histoire, en fait, hein, on parle d'histoire.
On parle beaucoup d'eux, on ne les voit pas, mais on parle beaucoup d'eux.
Voilà, c'est ça, c'est une histoire d'humain pour les humains, en fait, hein, avant tout. Voilà, il est question effectivement de regarder les chemins par lesquels ces femmes-là passent pour pouvoir continuer à vivre, à exister malgré tout, tout en étant des femmes effectivement hors des codes, des stéréotypes dans lesquels on souhaite les voir vivre.
Et ça va assez loin quand même, parce que un passage qui m'avait beaucoup, retenu mon attention, un passage qui, a priori, représente le scandale absolu, c'est lorsque, je crois que c'est la grand-mère, là je ne sais plus, je me perds un peu dans la génération, la grand-mère est amenée à abandonner son enfant. Alors ça, c'est le crime absolu pour la bien-pensance occidentale. Et vous le présentez de telle façon qu'on, je ne dis pas qu'on l'admet, mais disons, on le comprend un peu moins mal. Et ça, c'était, à mon avis, c'était un passage très délicat de la pièce. Non ? Vous êtes d'accord avec moi ?
Alors, ça dépend effectivement de quel point de vue on se place.
Moi, je vous donne ma réaction de
l'auditeur. Oui, oui, tout à fait. Du point de vue actuel, étant donné qu'aujourd'hui, la question du droit au divorce ne se pose plus, encore plus dans le contexte dans lequel Jeanne, elle est à l'époque, hein, puisqu'elle elle explique donc au juge qu'elle vit des violences conjugales quotidiennes. Donc aujourd'hui, on est... me semble-t-il, on vit dans une époque dans laquelle, pour la plupart d'entre nous, voilà, il est évident que cette Jeanne qui est battue par son mari, effectivement, la loi est de son côté. Elle le divorce, effectivement, elle l'obtient, et elle obtient aussi la garde de son enfant aujourd'hui. Voilà, et ensuite est discutée la question de la garde partagée, alternée, etc. À l'époque, c'est effectivement encore un grand scandale. C'est cette marge qu'il peut y avoir, cet écart qu'il peut y avoir entre le passage d'une loi, puisque la loi qui autorisait le divorce était passée, hein, en 1919. Elle date, cette première loi, de la fin du 19e siècle, toute fin du 19e. En revanche, le juge qui est en face d'elle ne lui accorde pas la garde de son enfant. La garde de l'enfant revient au père, et donc elle s'enfuit, effectivement, elle fuit sur le quai de la gare, elle veut fuir avec son enfant, et malheureusement, la domination, le système social de la domination masculine fait que le père de l'enfant, aidé de ses frères, fera en sorte que l'enfant n'aille pas avec la mère et que la mère s'en aille, et puis fait vivre dans la tête de l'enfant l'idée que la mère est abandonnique, voilà, alors que elle s'est enfuie.
Je voudrais pas quand même que les gens qui ont la gentillesse de nous écouter aient l'impression que c'est un manifeste féministe. Ça va bien au-delà de ça. C'est surtout un plaidoyer magnifiquement humain et féminin, puisque vous êtes...
Absolument, oui, oui. Oui, puisque, comment dire, l'humanité ne peut pas exclure les femmes, puisque les femmes sont, voilà, des êtres humains, et que les hommes sont aussi des êtres humains. Donc effectivement, la liberté de la femme et de l'homme est indispensable pour pouvoir prononcer le mot humanité.
Merci Leïla Anis. Je rappelle que votre pièce Les Monstrueuses sera jouée par vous, notamment, enfin par vous toutes seules, dans une mise en scène de Karim Amish, le vendredi 12 janvier, le samedi 13 janvier à 20h30, au Théâtre de Poche des Abbayes Saint-Brice. Je rappelle le numéro de téléphone, 0237 33 02 10. Je pense qu'il est prudent de réserver ses places. Le prix des places est à 10 euros et 15 euros. Je vous remercie de nous avoir écoutés.